6. Le grand bâtard. Et par le milieu du royaume et des pays voisins, s'assemblèrent toutes manières de gens de compagnie, que l'on nommoit escorcheurs, et chevauchois et allois de pays en pays et de marche en marche, quérant victuailles et aventures pour vivre et pour gagner. Olivier de la Marche. Autour du campement des oiseleurs couraient plusieurs sources. La première, au bord de laquelle était installé le parc à chevaux, miroitait dans son lit de galets et de pierres moussues. Un peu plus loin, la seconde gazouillait entre les racines de grands hêtres, creusant une rigole discrète qui contournait largement les pavillons somptueux. Dans la nuit tombante, l'éclat des flambeaux allumait çà et là un reflet doré sur leurs robes de couleuvre. Un peu effarouché par la lumière et par les cris, l'eau vive fuyait vers la pénombre et les promesses des bastères. En vidant le pays, les troubles en avaient aussi effacé la mémoire. Qui se souvenait encore du nom de ces ruisseaux? Quelques maraudeurs de la bande du Molosse, peut-être, qui avaient travaillé la terre du côté de Brécoat en une autre vie. À l'époque où des porchers menaient encore leurs bêtes à la fainée, où des charbonniers brûlaient encore leurs meules. Les manants fréquentaient ces rues comme de vieux voisins. Mais depuis que la guerre, l'oppression et les brigandages avaient chassé l'habitant, les sources versaient dans un oubli déliquescent. La guerre, les manants de Brécoat appelaient le ruisseau du parc à chevaux le Soumel. L'autre, plus loin, dans son lit encaissé, était nommé le Lodon. C'était peu ou prou leurs appellations depuis des générations dans le dialecte bromalois d'Agurande. Polis par le temps comme la pierre l'est par l'eau, ces noms s'étaient usés au fil des siècles. Même lorsqu'ils appartenaient encore au comté de Quimarc, les gens du cru en avaient oublié les formes anciennes. Parmi les trois oiseleurs qui venaient de prendre le chevalier de Vaumacel en tenaille, seul le plus vieux se souvenait peut-être que jadis on appelait ses sources le Sumelis et le Lotlounion. L'onde, bien sûr, n'avait que faire de ce savoir enfoui. Encore frémissante de ciel et de pluie, rieuse d'échapper à l'étreinte des roches, elle sautelait pleine de fraîcheur guillerette. L'affaire qui s'engageait entre Edane et les ravisseurs d'enfants ne la retenait point. Défis, penons, caracoles ombrageuses, agitation insipide en regard de l'attraction infinie des avals. Le flot filait vers d'autres aventures. Alors qu'ils se rejoignaient presque dans la grande hêtraie, les deux ruisseaux reprenaient leur indépendance un peu plus bas. Avec un enthousiasme juvénile, le Lodon se précipitait dans un vallon un peu étranglé qui dévalait vers l'est, où quelques troncs couchés lui dressaient des portiques sauvages. D'humeur plus prime sautière, le Soumel bagnaudait dans des futaies au sud, puis flânait dans des taillis vers l'est. Il contournait une butte où un marcheur attentif aurait peut-être deviné, s'il n'avait fait nuit, un grand cercle de pierre à demi noyé sous les racines et l'humus. Enfin, presque à regret, le Soumel se laissait entraîner par la douceur des pentes et repartait vers le nord. À l'étourdi, il rejoignait le Lodon, dans le lit duquel il s'enroulait à petits clapotis. Ainsi enhardi, le Lodon cherchait sa voie au pied du Drucervin, dont il égaillait le flanc oriental en courant vers le nord. Il creusait de jolies gorges, puis baignait des veaux secrets, gardés par des halles de saule et de frêne. Des animaux noctambules lui rendaient visite, blaireaux et renards penchés sur l'onde pour étancher leur soif, ainsi qu'un gros chat noir qui n'avait que faire dans ce bois. Talonné par une alarme mystérieuse, un cerf ténébreux franchit le flot d'un bond et engloutit sa livrée nuiteuse au fond des halliers. Insensiblement descendant les dernières pentes du Drucervin, le Lodon repartait vers l'ouest. Avec l'aube, il franchissait les premières percées. Les arbres se dérobaient comme le rue abordait les friches qui, naguère, avaient formé le communal de Brécoat. Intimidé de se retrouver à découvert, il soufflait une épaisse buée dans le petit matin, et s'enfilait au bas du finage déserté sous un capiton de brume. En fond de vallée, il s'étalait dans quelques étangs tout chevelus de joncs et de roseaux, avant de retrouver élan dans le fuyant au pied du moulin abandonné. Il reprenait un allant fluide, tout ridé d'allégresse, enlongeant la clairière qu'avait traversée la veille le sire de Vaumacelle et ses servants. Retourné sous la ramée, le Laudon descendait par degrés vers le nord, en une course indolente, qui paraissait dans les biefs et sautait en cascade quelques dévers empierrés. Au pied des collines de Margors, un autre flot lui donnait la réplique. Attiré par cette chanson fraternelle, le Laudon gargouillait des frislis empressés. Après avoir contourné un talus qu'il avait patiemment creusé, il mêlait soudain sa course à un gros ru dont les eaux étaient descendues de Margors et de Verchères. C'était Loubière. Elle n'était guère profonde, s'épandait même en mare limpide où l'on n'enfonçait point jusqu'au mollet. Mais il lui prenait des audaces de petite rivière. Dans un cours parfois resserré, elle s'essayait à gronder et s'amusait à se créter de bulles et de vaguelettes. Ralliée par d'autres sources, elle se faisait hardie. Elle se précipitait vers les lisières. Ainsi, débuchait-elle dans les prés de Goborchin. Elle y arrosait les lopins et les pâtures, tournait avec curiosité autour du village, se plaisait à mugir un couplet caverneux sous l'arche du pont en dos d'âne. Et puis, sans crier gare, elle se trouvait envahie de chèvres, de cochons et de vaches venus au boire. En y trempant leur linge, des lavandières la rendaient mousseuse de savon. Des impertinents osaient y puiser à plein seau. Alors elle s'ébrouait et se dérobait plus vive que jamais vers les cultures bien ordonnées de la réserve du trèfle. Prudemment, elle se gardait d'approcher du château, et cette précaution l'amenait à rejoindre au plus bref la vallée de l'Andoune. Dans ce nouveau lit, Loubière mêlait ses eaux à celles venues d'autres finages du trèfle et de beaucoup plus loin, des coteaux de Vers et des monts du Chevêchin. Par endroits, l'onde se faisait profonde et tramait de lents tourbillons. L'Andoune avait déjà roulé son flot à travers bien des horizons et des lieux caverneux. Elle en tirait une force plus mûre. Elle coulait sans crainte vers l'ouest, dans un pays doucement onduleux, et finissait même par se risquer à frôler le vallon du trèfle. Un fossé la reliait aux douves du château, que, sûre de son flux, elle condescendait à inonder. Cela ne lui pesait guère plus qu'un bras mort. L'allure égale, elle poursuivait son cours, arrosait les prairies de piviers, s'infléchissait vers le nord, puis, en un majestueux méandre, rebroussait chemin vers l'est, jusqu'à longer les lisières de la forêt de Gange. Elle finissait par frôler le moulin et les chaumières de Chanevier. Mais ce matin-là, alors que le flot glissait au bas des vignes et des maisons, un vacarme inhabituel couvrait sa chanson. Aboiements furieux, meuglements affolés, cacophonies où discordaient rires gras, éclats de voix, piaillements épouvantés. Une turbulence inquiétante résonnait dans tout le village. La rive était d'ailleurs noire de monde. Une soldatesque à demi barbare se penchait sur l'onde pour des ablutions hâtives. Trois butors s'esclaffaient en repoussant vers le milieu du courant une jeune paysanne qu'ils avaient jetée à l'eau. À deux pas, quelques soudards prenaient plaisir à pisser dans la rivière. Chanevier était envahi par les ouromans.
« C'est intolérable !» s'étranglait un froid du trèfle.
Il ne faut pas vous en faire, riait le grand bâtard. Ces brutes chahutent un peu, rien de bien méchant.
Les hauts hommes se tenaient en selle, dos au parvis du moutier de Douce Dame où ils venaient de passer la nuit. Une poignée de cavaliers les entourait, deux bannerets du seigneur du trèfle avec leurs écuyers, ainsi que l'un des lieutenants du bâtard, le gonfalonier Aspé Carnefice. Autour d'eux, le village était en ébullition. La soldatesque grouillait dans les venelles. Les guerriers tordaient le cou des poules, chargeaient des sacs de grains, saignaient des porcs, poussaient des bovins hors des étables. Les manants qui tentaient de sauver leur bétail étaient rossés d'importance. Des enfants effarés fuyaient éperdument. Des cris de femmes s'élevaient dans plusieurs chaumières. La révérende Zébie se précipitait de droite et de gauche au milieu de la bousculade, au risque de prendre un mauvais coup pour porter secours aux blessés et les épauler vers le sanctuaire. « Que casino !» commentait froidement le gonfalonier. « On devrait pendre deux ou trois goujats au hasard pour remettre les autres au pas. »
« Ma foi, ce serait rafraîchissant. Surtout de bon matin !»
se réjouit le grand bâtard.
« Et le plus drôle serait d'avoir ensuite les 200 survivants sur les bras. N'avez-vous donc nulle autorité sur vos gens ?»
s'irritait le seigneur du trèfle.
« Mon autorité sur ces lascars vous émerveillera quand je les aurai payés. En attendant, ce sont mes gens qui paient. Ne vous faites pas de mauvais sang, cher voisin. Je vous dédommagerai sur la solde de cette canaille une fois que son Altesse paternelle me l'aura réglée. En attendant, mon clerc va abréger la fête, je vous en fais serment. Croix de bois, croix de fer. »
Le clerc dont il était question n'avait de religieux que le sobriquet, et peut-être un vague souvenir de jeunesse. Bien que son nom de naissance, Ancelin Marpeau, fleura un peu la roture, Domnal Fitzganlon en avait fait son écuyer parce que le gaillard avait une réputation de fine lame et partageait son sens de l'humour. Marpeau était également lettré, ce qui était fort commode pour un seigneur qui savait à peine griffonner un paraphe. Le clerc devait son surnom au petit semestre qu'il avait consacré dans ses tendres années à l'école de droit de Carwell. Il confessait volontiers qu'il avait fréquenté plus assidûment les salles d'armes et les étuves des bas quartiers que le cloître de l'écolâtre, et qu'il en avait tiré d'utiles leçons pour devenir le secrétaire d'un capitaine de routier. Aussi, le grand bâtard se reposait-il sur lui pour sa correspondance et pour sa diplomatie. Or, de la diplomatie, il en fallait des trésors pour arrêter 200 soudoyers ou romans occupés à faire main basse sur des femmes, du blé et du bétail. Ancelin Leclerc se prodiguait donc auprès des meneurs des diverses bandes recrutées par son maître et plaisantait fort utilement avec eux. Au détour d'une boutade, il finissait par les prier de rassembler leurs hommes. Malgré un doigté préférable aux pendaisons du gonfalonier, cette méthode entraînait aussi de plus longs délais. Pendant ce fâcheux contretemps, les bêtes disparaissaient, les paysannes étaient troussées, la prieure se désespérait et le seigneur du trèfle rongeait son frein. Rinfroid du trèfle ne pouvait cependant exprimer trop haut son scandale. Il sentait de façon palpable la colère de ses bannerets qu'il avait déjà dû retenir. Il n'attendait qu'un signe de sa part pour tirer l'épée et charger les pillards. Or, les ouromans étaient nombreux, aguerris et féroces. Ils auraient fait un sort à la maigre ménie du trèfle en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Par ailleurs, bien que pareil échauffouré eût sans doute diverti le grand bâtard, Rinfroid se sentait pieds et poings liés en sa présence. Quoique dépourvu de tout droit dans la dynastie de Bromel, Domnal Fitzganlon se trouvait gratifié d'une réelle affection de la part du duc. Si légitimes que fussent les raisons de défier l'indélicat, le seigneur du trèfle savait qu'il passerait pour rebelle s'il cédait à ce mouvement. Surtout après avoir laissé filer Blancandin sans escrègne et le chevalier de Vaumacel.
Il faut voir le bon côté des choses, philosophait le grand bâtard. Ces cajoleries vont renouveler le sang. Les gueuses du pays seront grosses d'un joli cheptel. D'ici 15 ans, vous y gagnerez de solides paires de bras. »
Le seigneur du trèfle ne put dissimuler une expression de mépris, que son vis-à-vis feignit d'ignorer. Rinfroid laissa errer son regard sur l'odieux personnage. Quoique jeune encore, il affichait déjà la mine chiffonnée de ces individus qui vivent sans frein. Il aurait pu avoir de la prestance. Il tenait moins du duc que de sa mère, jadis une vraie beauté, dont Rinfroid gardait le charme en mémoire, encore qu'il ne l'eût croisé qu'une ou deux fois alors qu'il était page. Mais Domnal Fitzganlon avait épaissi sa taille dans les excès de boisson et de table. Son courage et ses accès de rage lui valaient quelques balafres. Son sourire était déjà ébréché par la perte de 2 incisives. Il était d'ailleurs le premier à en rire. Il n'avait pas laissé ses dents dans une bataille, mais dans une bagarre d'ivrogne contre son mentor et âme damnée, le sénéchal Brascrovel. Plus choquant encore, il coupait ses cheveux à la mode ou romande, la nuque rasée avec une longue frange couvrant le front et les sourcils. La lippe en avant, il soufflait bruyamment pour repousser cette mèche. Avec son teint rougeau et son crin blond, il ressemblait davantage aux Karls arriérés du clan Voltsom qu'à un surgeon de la lignée ducale. Bizarrement, à côté de cet énergumène jeune et grossier, Rinfroi du Trèfle se sentait emprunté. Pour accompagner la horde du grand bâtard, il s'était splendidement équipé de son harnois blanc, et ce alors qu'il se trouvait encore sur son propre fief. Son impuissance à protéger ses paysans ne lui en cuisait que davantage. Le grand bâtard, quant à lui, ne portait qu'un pourpoint, certes taillé et galonné dans des étoffes de prix, mais enfilé à l'as de pique. Bien que le froid fût encore cru, il n'avait pas jugé nécessaire de mettre un manteau. Il chevauchait sans armes, il ne s'encombrait même pas d'une dague de chasse. Cette désinvolture donnait le sentiment qu'il était chez lui et qu'il partait faire le tour du propriétaire. Sa décontraction était d'autant plus frappante qu'il voyageait au milieu d'une troupe scélérate, armée jusqu'aux dents, à la loyauté incertaine. Était-ce juste de la témérité? Le seigneur du trèfle n'en aurait pas juré. Domnall Fitzganlon, seul homme désarmé dans un grouillement de sicaire, exhibait tant d'assurance qu'il inspirait la crainte. De fait, la violence et la désolation marchaient dans ses pas. Quelle pénible traverse, se désolait Rinfroi dont les oreilles sifflaient douloureusement au tumulte du pillage. Il sentait peser sur sa nuque le regard lourd de réprobation de ses propres vassaux. Mais le moyen de faire autrement. Fallait-il agir en félon au nom de la justice? En sauvant l'honneur, le seigneur du trèfle aurait perdu ses gens qui ne demandaient qu'à combattre. Les Ouromans, quant à eux, n'auraient plus connu de bornes à leur sauvagerie. Ils se seraient vengés en massacrant les manants. La lâcheté restait l'option la plus courageuse. Mais l'affront était dur à avaler. Toute cette affaire était mal engagée depuis le départ. Dès qu'il avait accordé l'hospitalité à Blancandin, Rinfroi du Trèfle avait su qu'il allait s'exposer à de sérieux désagréments. En revanche, il ne s'était pas attendu à ce qu'il lui tombasse si vite sur l'échine. La veille, le châtelain avait à peine eu le temps de respirer après le départ de ses encombrants visiteurs. Il réfléchissait à la meilleure manière de présenter les choses à son suzerain quand les sentinelles avaient sonné l'alarme. L'apparition d'une petite armée d'Ouromans sur le chemin de Goborchin avait jeté l'épouvante dans les murs, et Rinfroi avait aussitôt ordonné le branle-bas de combat. Ce n'était qu'après coup, en reconnaissant les couleurs du grand bâtard qui flottait au-dessus de la horde, qu'il avait compris qu'il s'agissait de mercenaires recrutés au service du duc. Cela ne l'avait guère rassuré. Rinfroi avait craint que Ganelon ne fût déjà au courant du bon accueil qu'il avait fait au fils rebelle et ne lui eût envoyé ses troupes pour demander raison. Il n'en était rien. Domnall Fitzganelon se rendait simplement au banc qu'avait levé son père à Caroël et faisait étape chez son voisin. Il demandait l'hospitalité pour la nuit. Rinfroi la lui avait accordée, tout en redoutant une ruse qui eût permis au grand bâtard de s'emparer du château en s'épargnant les fatigues d'un siège. Domnall avait cependant accepté de bonne grâce que ses soudards campassent dehors, en plaisantant que garder la porte était le rôle des chiens. Il s'était toutefois imposé avec le premier cercle de ses sbires, la fine fleur des routiers qu'il commandait. Il fallait reconnaître que certains d'entre eux paraissaient civilisés. Ancelin Marpeau, dit le clerc, se révélait plein de prévenance, malgré une allure louche d'escogriffe. C'est qu'il ne se départait jamais d'un sourire en coin. Ce rictus donnait l'impression qu'il vous prenait de haut jusqu'en vous prodiguant les plus exquis des compliments. Quant à Aspe Carnefice, il se montrait d'une correction fort raide et possédait des manières aussi irréprochables que glacées. Rinfroi du Trèfle avait entendu parler de lui à la cour ducale. Ancien gonfalonier du régiment Testa Negra, il s'était couvert de gloire au service de la République de Tchoudalia. Par infortune, il avait pris fait et cause pour le mauvais camp au cours de la guerre civile et n'avait dû sa survie qu'à l'exil. Réfugié dans le duché, réduit à la misère, le vieil officier s'était résigné à louer son épée. Il souffrait visiblement dans son orgueil d'avoir chuté si bas. Ce qui du reste avait l'air d'amuser le grand bâtard. À côté de ses seconds somme toute assez présentables, Domnall Fitzganlon avait également traîné avec lui quelques chefs ou romans. Ses lieutenants étaient les meneurs de ramassis appartenant à trois clans différents dont le regroupement formait la bande mercenaire. Avait-il du sang noble? Ce n'était pas impossible, mais difficile à croire. Il cumulait toutes les vulgarités du soudoyer et du barbare. Braillard, sans gêne, se comportant en terrain conquis, ils avaient poussé l'incorrection jusqu'à garder leurs armes pendant le souper. Ils buvaient comme des trous, dévoraient comme quatre, suçaient les os jusqu'à la moelle au lieu de les jeter aux chiens, et essuyaient leurs doigts gras sur leurs flancs plutôt que sur la nappe. Sans égard pour leurs hôtes, ils s'interpellaient à pleine gueule, en rugissant de rire, ou en se jetant des regards farouches. Plus mal polis encore, ils vociféraient dans leur jargon guttural sans se soucier de deviser avec le seigneur et sa dame. Ancelin Leclerc, qui ricanait à leur saillie, semblait fort bien les entendre. Il avait d'ailleurs appris à ses hôtes que les brutes se comprenaient mal entre elles, Vig et Sigard ne parlant pas le même dialecte que Skegi le barbu. Puis, fort obligeamment, l'écuyer du grand bâtard s'était proposé de traduire la conversation, en excusant par avance certains termes un peu osés. Avec le sourire, il avait alors proféré des grossièretés énormes, non seulement ordurières, mais d'une salacité si pimentée qu'on pouvait soupçonner le truchement de charger la barque à sa façon. Pour couper court à ces propos inconvenants, la dame du trèfle s'était tournée vers Domnall Fitzganlon, qui, le nez dans sa coupe, s'étranglait de rire, et s'était enquise de son ton le plus froid de la qualité de ces gens. Le capitaine avait présenté les malotrus comme des carles rompus à de nombreux combats. Vig venait du clan Seada, Sigard du clan Deorsine et Skegi du clan Voltsom. Les guerriers du barbu étaient sans conteste les plus sauvages. Certains d'entre eux passaient pour des métis d'ascendance ogresque, du moins s'en vantaient-ils. De façon surprenante, Sigard le Deorsine était alors intervenu en parlant un léonien à peine teinté d'accent. Il avait jugé indispensable de préciser qu'à la différence de ses deux comparses, qui n'étaient que des lourdeaux, il s'honorait du titre de Tan. Ces mots prononcés dans une langue civilisée lui eussent presque donné l'air fréquentable, n'eût été l'amas de bijoux qui lestait son cou, ses poignets et ses mains, dont quelques anneaux ecclésiastiques passés à ses doigts malpropres. Au cours de ce déplorable repas, le seigneur du trèfle avait reconsidéré sa situation. Il s'était certes découvert un motif de satisfaction. Domnall Fitzganlon semblait tout ignorer du récent retour de son demi-frère. Sur ce point précis, Rhinfroy disposait toujours d'un coup d'avance. À vrai dire, cela ne l'avait guère soulagé. Car tôt ou tard, il allait bien falloir aviser le duc. Or si le seigneur du trèfle avait laissé repartir le grand bâtard sans l'avoir instruit de la rébellion de Blancandin, sa dissimulation fut passée pour de la trahison. Eût-il pu considérer la visite de Fitzganlon comme une opportunité? Le capitaine de soudoyer n'eût-il point été en mesure de transmettre le défi de son cadet? Rhinfroy avait frémi en imaginant la façon dont la nouvelle véhiculée par des êtres aussi louches que le bâtard et son clerc eût pu être rapportée à l'oreille ducale. La mort dans l'âme, le seigneur du trèfle s'était donc résigné à prendre le parti le plus désagréable. Pour sauver son crédit, il lui fallait non seulement avertir Domnall Fitzganlon, mais accompagner celui-ci à Carwell et exposer en personne les faits à son suzerain. Dans ses réflexions, Rhinfroy Trèfle avait toutefois négligé un aspect du problème. L'impulsivité du grand bâtard. Ayant appris que Blancandin avait fait étape la veille au château du trèfle, son sang n'avait fait qu'un tour. Abandonnant l'idée de gagner Carwell, il avait décidé de se lancer à la poursuite du rebelle. « Pour lui tomber dans les bras », avait-il juré. Rhinfroy avait eu beau objecter que la troupe de Blancandin était entièrement montée et qu'il bénéficiait d'une journée d'avance, Domnall n'en avait pas démordu.
« Les Ouromans ont plus de jarret que la hacknée du frérot !»
avait-il brocardé. Au matin, ayant eu à peine le temps de rassembler une maigre troupe, le seigneur du trèfle s'était donc trouvé entraîné dans une déraisonnable poursuite. Il avait marché avec le bâtard vers l'amont de Landoun. Mais il était d'autres personnes qui n'avaient pas goûté le détour. Vers le milieu de la matinée, la grogne était montée au milieu des Ouromans. Vig le Séada avait déjà vendu ses services dans la région. À moins qu'il n'eût maraudé dans le duché à l'époque du sac de Kelsbruck. Il avait en tout cas compris que le grand bâtard prenait la direction opposée à celle de Carwell, où les soudoyers devaient recevoir leur première solde. Avant midi, lui et ses hommes refusaient d'aller plus loin tant qu'ils n'étaient pas payés. Sigard, Skegi et leurs guerriers s'étaient ralliés à leurs exigences. Le grand bâtard avait tenté de les amadouer en invoquant un simple détour vers le château de Verre dans le but de saluer ses frères avant de reprendre la route de Carwell. Mais s'ils avaient l'air de rustres, les Ouromans n'étaient pas tombés de la dernière pluie. Ils soupçonnaient que les retrouvailles familiales risquaient de dégénérer, et bien renseignés sur le duché, ils avaient eu vent de la position imprenable du château de Verre. Sigard avait accusé Fitzganlon de chercher à les tromper. Le ton était monté entre les deux hommes, qui avaient failli en venir aux mains. Rhinfroi du Trèfle avait considéré cette querelle avec effroi. Si les Ouromans rompaient leur contrat, la première chose qu'ils commettraient serait sans doute un saccage en règle de son fief avant de fuir hors du duché. Invoquant l'hospitalité qu'il avait offerte au chef barbare, il avait improvisé une conciliation. Le grand bâtard, qui se voyait mal engagé avec ses mercenaires, avait prétendu vouloir obliger un froid et finalement accepter d'abandonner la poursuite de Blancandin. Au début de l'après-midi, la troupe faisait donc demi-tour et, reprenant la route de Carwell, redescendait la vallée de Landoun. Ce changement de cap expliquait qu'à la fin de la journée, la petite armée se trouvait toujours sur les terres du Trèfle et qu'elle avait fait étape à Chanevier. Quoique terriblement lente à agir, l'intervention d'Ancelin Leclerc finit par porter ses fruits. Les chefs Ouromans rappelèrent leurs hommes, sans y mettre trop de zèle, et la troupe finit par quitter Chanevier, force volailles accrochées aux lances en guise de pennon, poussant devant elle quelques vaches et quelques chèvres. Alors qu'il essayait d'ignorer la colère rentrée de ses vassaux et la désolation de ses manants, Rhinfroi du Trèfle avait pâli en croisant le regard de la prieure Eusébie. Il exprimait plus de pitié que de mépris. En abandonnant le finage, le seigneur faisait mine de ne rien voir, et pourtant, chaque rire, chaque cri, chaque pleur marquait sa fierté au fer rouge. Le grand bâtard chevauchait botte à botte avec lui, l'air plutôt content. « Ses provisions vont les calmer !» dit-il en faisant allusion à ses soudards. « Ils auront l'estomac rempli jusqu'à ce qu'on arrive à Carwell. Là-bas, une fois payés, ils deviendront doux comme des agneaux. Et moi, je vous verserai réparation pour le tort. Avez-vous l'assurance que monseigneur, votre père, aura leur argent ?» marmonna le seigneur du Trèfle entre ses dents. Il faisait allusion à l'impécuniosité bien connue du duc. « Oh, ne vous en faites pas !» éluda Fitzganlon. Il doit recevoir des émissaires de sa belle famille. Enfin, la nouvelle belle famille, la Tchoudalienne. Ces gens croulent sous l'or. Ils convoient le reste de la dot, ça financera la campagne. La rébellion de Blancandin et de Méléagan, probablement soutenue par Anguzel de Kimark, n'en inquiétèrent un froid que davantage. Pour peu que le duc reçût effectivement des fonds tchoudaliens, il pourrait prolonger le service armé de son banc plus de 40 jours. Or, le château de Verre et le comté de Kimark étaient trop proches des finages du Trèfle. Si une guerre éclatait, elle risquait de durer, ce qui ruinerait toute la région. Malgré le ressentiment qu'il éprouvait à l'endroit du grand bâtard, Rhinfroi se fit violence pour en apprendre davantage. « Monseigneur le duc vous a-t-il fait savoir à quelle fin il lève le banc ?» demanda-t-il.
Nullement. Quelle importance ?
Devant l'air déconfit de son vis-à-vis, Fitzganlon ébaucha un rictus.
Franchement, trèfle, lança-t-il. Feriez-vous ce genre de confidence à quelqu'un comme moi ?
Il cracha sans façon et poursuivit avec une feinte indifférence.
Son Altesse mon père est un brin cachetière. À quoi servira cette prise d'armes ? Dans l'hôtel ducal, j'imagine que seul son connétable et son chancelier se trouvent dans le secret. Mais pas besoin d'intriguer pour deviner où il projette de guerroyer. Cela coule de source.
Dans ce cas, vous voici plus avancé que je ne le suis, constata Rinfroid avec un peu d'aigreur.
Allons, ne vous faites pas plus sot que vous l'êtes. Il fallait bien que tout ce foutoir, le procès, la répudiation, le remariage servent à quelque chose. Croyez-vous que mon cher père, qui ne s'est jamais privé de courir la gueuse, se soit farci tous ces tracas juste pour le plaisir de mettre une duchesse plus jeune dans son lit? Surtout une duchesse comme celle-ci.
Sa face fut convulsée par un soubresaut qui lui fronça une paupière et lui tordit le coin de la bouche. Le seigneur du trèfle en fut choqué, tant la grimace était bien imitée. Oser se moquer ainsi d'une disgrâce de la duchesse. Quelle irrévérence!
Soit dit en passant, poursuivait tranquillement le bâtard, je l'aime bien, ma nouvelle marâtre. Je la trouve plus drôle que l'ancienne. Une belle maman aussi jeune, ça donne des envies de câlin. Évidemment, elle est un peu plate. Et il y a ce vilain tic. Mais il paraît qu'à Tchoudalia, ça ne l'a pas empêché de courir la fredaine. Je suis sûr que de nuit et la tête dans l'oreiller, elle doit valoir le galop.
Rinfroid ne put dissimuler sa réprobation.
Sire Domnal, protesta-t-il, ces propos sont outrageants pour la dame comme pour vous. Bah, elle ne nous entend pas, et je compte sur vous pour ne pas les lui répéter. Du reste, vous savez aussi bien que moi que l'on raconte bien pis dans son dos. Cela n'excuse en rien la discourtoisie. Allons donc pour un poil de familiarité. Vous savez que je suis quelqu'un de taquin, c'est ma façon ordinaire d'exprimer mon affection. En tout cas, ces impertinences ne m'éclairent guère sur les intentions de Monseigneur le Duc, observa Rinfroid en revenant à son idée. Où croyez-vous qu'il conduira l'armée ?
Fitzcanlon roula les yeux de façon désobligeante.
Vraiment, trèfle, vous n'avez aucun flair. Vous avez la réponse sous le nez.
Du menton, il désigna la colonne de brutes et de pillards qu'il commandait. Son compagnon fronça les sourcils d'un air perplexe.
Vous voulez dire que vous allez soudoyer des ouromans pour en... Pas la peine d'en dire plus. Vous m'avez parfaitement compris, coupa le bâtard. Ces ours sont louis fines. Si vous voyez juste, c'est une entreprise pour le moins ambitieuse. La dot de la nouvelle duchesse pèse 100 fois son poids en florin.
Rinfroid hocha la tête. Il fallait une montagne d'or pour envisager une campagne militaire si importante. Or, le duc Ganelon était criblé de dettes. Si son fils naturel avait bien cerné les intentions du suzerain, cela éclairait sous un nouveau jour la répudiation de la duchesse Odéarde et le mariage avec la plus riche héritière de Tchoudalia. Et le seigneur du trèfle devait en convenir. Voilà qui ressemblait fort aux combinaisons que le chancelier Diatchekrimen se plaisait à susurrer à l'oreille du duc.
« Cela reste un pari très risqué, » commenta le châtelain. « Hé, fortune de guerre ! Monseigneur le duc est audacieux, mais il n'a pas toujours été partisan de l'épreuve de force avec ses voisins, et son conseil pèse mûrement ses avis. » Je doute que le chancelier Diatchekrimen approuverait pareille aventure sans de solides garanties. Ça, le chafouin n'aime pas les coups de tête. Dès lors, sans vouloir vous offenser, sire Domnal, êtes-vous sûr de vos hypothèses? L'adversaire dont nous parlons occupe des pays vastes et sauvages. À l'époque glorieuse de l'Aléomance, la couronne elle-même n'a jamais réussi à les soumettre. L'armée ducale ne saurait les conquérir en une seule saison, ni en plusieurs. Imaginons que son Altesse ducale soit victorieuse. Cela entraînerait des représailles, peut-être une riposte aussi meurtrière que le sac de Karlsbruck. Croyez-vous vraiment, monseigneur votre père, prêt à se lancer dans pareille partie?
Tout en se laissant porter par le pas de son cheval, Le grand bâtard fit peser son regard glauque sur Rinfroid. Et au bout d'un long moment, il proféra sur un ton dédaigneux. « Absolument. Je le crois. » Haussant ses épaisses épaules, il ajouta « Je sais bien que vous méprisez ma naissance, mes mauvaises manières et ma jeunesse. Mais laissez-moi vous apprendre une chose. Vous êtes un enfant gâté, trèfle. Votre sagesse, votre courtoisie, votre sens de la justice, la compassion que vous avez pour vos péquenauds, c'est du luxe. Vous vous croyez sur le fil parce que votre fief se trouve aux portes de Kimark. Mais Kimark, c'est toujours votre monde. Les guerres avec Anguzel, ce sont des chamailleries de rosières. Le vrai danger, je lui livre combat depuis des années quand je rejoins les forces de Brockmel, de Vekinsberg, et même parfois celles de mon cher ami Anguzel. Le vrai danger, il se trouve toujours au-delà de la vallée de la Clay, dans les montagnes, les forêts et les fjords qui nous fournissent ce matin cette vaillante escorte. Et si moi, aujourd'hui, avec ma garde doux roman, je vous dis que le temps est venu, eh bien cela signifie que le temps est venu. Tenez, je vais être bon prince. Je vais vous faire entendre des racontars qui vous donneront du grain à moudre. » Sur ces mots, il ordonna à son écuyer de lui ramener le Déorcine. Le clerc eut beau insister, il revint seul. Depuis l'algarade de la veille, Sigarde faisait sa mauvaise tête. Le grand bâtard ne se formalisa pas pour si peu. Il invita Rinfroid à se ranger avec lui sur le bord du chemin, afin de laisser passer la colonne jusqu'à ce que le tan Déorcine se profilât. Entraînant le seigneur du trèfle avec lui, Fitzganlon emboîta le pas du chef ouroman et se moqua ouvertement de son mauvais caractère. Le ton monta à nouveau entre les deux hommes. Rinfroid sentit peser sur eux le regard farouche des carles de Sigarde. Mais le culot du grand bâtard amusait le Déorcine. Les injures qu'ils échangeaient finirent par se teinter de gaieté jusqu'à ce que la troupe se fendît de gros rires carnassiers. Au bout d'un moment, le capitaine de routier et son douteux lieutenant causaient comme si de rien n'était dans un sabir qui mélangeait les langues. « Par politesse, parle donc uniquement léonien !» lança Fitzganlon au bout de quelque temps. « Le noble seigneur qui nous accompagne ne connaît pas ton patois !» Sigarde lança un coup d'œil tranchant à Rinfroid et lâcha quelques mots dans son idiome barbare. « Tu sais, même si tu voulais l'insulter, il ne comprendrait goutte !» observa le bâtard. « Si je voulais l'insulter, je le ferais dans sa langue, » gronda le Déorcine. « Tu en auras peut-être l'occasion. Mon noble ami que tu vois là a du mal à croire que la guerre entre vos clans vaut largement celle entre nos maisons. » Pour toute réponse, le Tan se contenta d'un ricanement sinistre. « C'est éloquent, mais un peu court, » se rembrunit Fitzganlon. « Quand tu nous auras payé l'or que tu as promis, bâtard, « nomme-nous ton ennemi. Ton ami verra comment les clans font la guerre. En attendant, pour l'agrément du voyage, tu pourrais nous répéter ce que tu m'as raconté avec Innsberg. » Avec Innsberg, on faisait la fête et j'avais bu. J'étais trop bavard. Aujourd'hui, j'ai la gorge sèche. En te recevant dans son château, le seigneur du trèfle n'a pas lésiné sur son vin. Il doit te rester un peu de salive. » Le chef ouroman le confirma en expédiant un gros crachat au pied du cheval de Fitzganlon. « Mon ami va finir par croire que vous n'avez aucune reconnaissance pour son hospitalité. Tu me les brises, bâtard !» Après avoir toisé l'intéressé d'un air furieux, le Déorcine finit par aboyer. « On ne va pas y passer la journée. Qu'est-ce qu'il veut savoir, ton Eldorman ?» Si tu lui racontais ce qui s'est passé dans les clans depuis l'automne dernier. » Sigarde renifla de façon sonore, comme s'il rassemblait des glaires pour se remettre à cracher. Il foudroya Rinfroid du regard. Alors comme ça, tu crois qu'entre nous, on n'a pas la main lourde? C'est davantage l'allégation du sire Domnal que la mienne, répondit prudemment le seigneur du trèfle. Ouais, il est pénible. Toujours à se foutre de la gueule de tout le monde. Un jour, il ira trop loin et il lui arrivera le même truc qu'au burgrave Bratislav. Ah, enfin on y arrive, se réjouit le grand bâtard, insoucieux de la menace. Rinfroid ne put s'empêcher de dresser l'oreille. L'individu à qui Sigurd venait de faire référence était l'un des deux capitaines qui, 10 ans plus tôt, avaient pillé et incendié la ville de Kelsbruck.
Que lui est-il arrivé au burgrave Bratislav?
S'enquit-il tout en prévoyant la teneur de la réponse.
Il est mort, quelle question!
Grommela le chef ouroman.
Son beau-frère Brankovan, le voïvode de Hoer, l'avait invité à un banquet. C'était un traquenard. Il l'a fait égorger avec tous ses compagnons. Ensuite, il s'est emparé des Froya, le clan de Bratislav. Comme le voïvode Geza l'avait accusé du meurtre de son beau-frère, Brankovan a pris les devants et l'a attaqué à la tête des guerriers Hoer et Froya. C'est aussi à ce moment qu'on a commencé à parler de sorciers qui violaient les tertres au service de Brankovan. Les hommes du clan Zorni ont eu peur de ces maléfices. Ils se sont couchés sans combattre. Et leur chef Geza, il s'est enfui chez les Arclides. Ensuite, Brankovan a envahi les terres du clan Catuat. Il a massacré les guerriers qui lui ont résisté dans le Val des Tourbières. On ne sait pas ce qu'est devenu le roi Lularap Colwyn.
Moi, je pense qu'il est mort.
Mais il y en a qui disent qu'il est devenu l'esclave de Brankovan, ou pire. Au nom des liens du sang, le roi Ferbassar a rassemblé toutes les forces Arclides pour venger Lular, et il est entré en guerre contre Brankovan. Ils se sont rencontrés du côté du monde Votov. À la bataille du Pain Tordu, ça a été un carnage, sans vainqueur ni vaincu. On raconte qu'il y avait des drogards dans le clan Hoer. Geza a perdu le bras droit, et Ferbassar aurait été tué dans la furie d'un guerrier fauve, le Drot, qui a semé la panique dans la hirde de Brankovan. Voilà pour ce que j'en sais. Ce sont pas des nouvelles fraîches. Les clans ont dû refaire leurs forces pendant l'hiver, et si ça se trouve, le sang coule à nouveau sur les pentes de Dvotov.
Pendant que le Déorcine égrenait sans passion ce chapelet de félonies et de tueries, le grand bâtard coulait des regards entendus au seigneur du trèfle. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Rinfroi saisissait très bien le fond de sa pensée. Tant que les loups se mangeraient entre eux, le duc aurait les mains libres pour les forcer au fond de leur tanière.
« Et dis-moi, Sigurd, qu'est-ce que tu fais ici au lieu de t'illustrer dans ce carnage ?»
râlia Domnall Fitzcanlon.
Les Hoer sont des charognes sans honneur, et les Hartclyde des chiens arrogants. Ils peuvent crever. En Bromel, il y aura moins de gloire à gagner, mais plus d'or. »
Avec une expression de défi, il gronda un ton plus bas.
« Y a intérêt, en tout cas. »
Pendant que Fitzganlon riait de cette menace, le seigneur du trèfle ne faisait guère d'efforts pour masquer sa désapprobation. Que des brutes eussent soif d'argent au mépris de tout le reste, quoi de plus trivial? Qu'attendre d'autres de ces butors? Mais qu'un capitaine de lignée ducale prit plaisir à plaisanter avec cette engeance, voilà qui passait sa compréhension. On eût dit que Domnall, au lieu de voiler sa bâtardise, s'ingéniait à provoquer les gens bien nés en étalant la bassesse de ses origines. C'était d'autant plus choquant que sa mère, quoiqu'elle ne fût point de sang noble, n'avait rien d'une gueuse ou d'une fille perdue. Sans plus prêter attention aux vulgarités qu'échangeaient ses compagnons, Rinfroi se replongea dans ses souvenirs. Il revit le banquet où, petit page, il avait été chargé de servir la table de Ganelon et de sa jolie conquête. 25 ans déjà. Cela ne le rajeunissait pas. La grande salle de la maison bourgeoise, malgré ses belles dimensions, était bondée. C'était l'époque où le duc Griffon venait de se réconcilier avec son fils Vertigier et les barons rebelles. Les nobles seigneurs de Bromel, qui, la veille encore, se livraient de rudes combats, festoyaient après avoir échangé des serments d'amitié. La brise de mer qui entrait par les fenêtres ouvertes adoucissait le fumet des vins et des viandes, relevé d'épices rares importées à grand prix. La beauté de la musique d'alors, l'éclat des conversations, les démonstrations d'estime entre les ennemis d'hier allumaient une nostalgie d'autant plus vive dans le cœur de Rinfroi qu'il devait à présent souffrir les grossièretés de ses compagnons de route. En cette époque lointaine, Ganelon n'était encore qu'un jeune chevalier. Il n'était ni duc, ni même destiné à le devenir. Mais au cours de la guerre du Hériban, le soutien sans faille qu'il venait d'apporter à son père, le duc Griffon, avait fait de ce cadet une puissance à la cour de Bromel. Dans toute l'insouciance de ses 20 ans, il passait encore pour un bachelier séduisant, malgré le menton un peu fort et le nez tombant de sa lignée. Ses cheveux roux et fournis possédaient de beaux reflets cuivrés. Cette chevelure flamboyante s'accordait bien à son caractère, assuré, brusque et remuant. Dans les deux camps, on avait admiré sa fougue pendant les engagements. Les avis étaient plus partagés sur ses ruses, car il lui était parfois arrivé de recourir à des tours discutables dans la prise d'une place. Le page de Ganelon ayant été blessé dans une bagarre contre les valets de Vertigier, c'était un peu par hasard que Rinfroi avait été appelé à le servir au cours de ce banquet. Pour le garçon qu'il était alors, cela avait représenté un honneur redoutable. Gonflé de suffisance, il avait joui de l'envie des autres pages et de la fierté de son père, prudemment rallié au parti ducal. Mais Ganelon était déjà un maître exigeant et imprévisible, aussi prompt à punir qu'à récompenser. Pendant toute la durée de son service, qui n'avait pas excédé quelques jours, Rinfroi avait tremblé de commettre un impair. Le cadet des Bromel ne s'était pourtant guère soucié de son petit serviteur. Il était fort occupé à intriguer en marge des pourparlers de paix. Par-dessus tout, il était follement entiché de sa récente conquête. Avec 25 ans de recul, le seigneur du trèfle en éprouvait toujours le charme lointain. Corps de roi, que la demoiselle était jolie! Il revoyait avec émoi cette nuque gracieuse qu'il avait dévorée des yeux pendant l'essentiel du banquet. Il croyait encore entendre ce rire de gorge comme Ganelon, sa main forte posée sur les doigts menus de sa voisine, lui confiait à l'oreille quelque aveu un peu osé. Comment s'appelait-elle déjà? Odeline, Oberheld, Oriabel? Quelle faculté inconstante que la mémoire, s'étonnait Rinfroi, qui vous restitue la vénusté troublante d'un beau profil et vous frustre de son nom. Du moins se souvenait-il de sa famille, qui, certes, n'était point noble, mais dont l'entregent rayonnait au-delà du duché. Car la belle était la fille de l'armateur Coilvert, l'un des plus riches marchands de Longomore. C'était même la raison pour laquelle la charmeuse Oriabel Oberheld participait au banquet. Son père, l'influent négociant, avait prêté sa demeure pour cette fête, la grande maison bourgeoise offrant plus d'agréments que les salles humides du château de Mordune. La demoiselle Coilvert n'avait pas seulement pour elle sa jeunesse et sa beauté. Elle se montrait d'une parfaite courtoisie. Elle chevauchait à merveille. Elle dansait et chantait à ravir. Elle savait ses lettres et tenait un chansonnier. Elle vivait dans le luxe et dépensait sans compter. En tout, sauf par le sang, on eût pu la tenir pour noble. Son père lui avait donné cette éducation au-dessus de son rang par calcul. Sans doute avait-il médité de la marier à une lignée désargentée de Bromel ou à l'un de ses puissants partenaires tchoudaliens. Malheureusement pour ses projets et pour le sort de sa fille, cette ambition avait trop bien réussi. La belle avait séduit l'un des deux fils du duc, celui à qui la fortune des armes venait de sourire. Comment se dérober devant la faveur du prince triomphant? Comment défendre la vertu d'une jouvencelle que grisait pareil trophée? Domnall Fitzganelon était né de ses amours mal assortis. Une liaison fugace, rapidement compromise par la reprise de la guerre. La paix de Longomore avait fait long feu. Elle portait les germes de la catastrophe. Au lieu de restaurer la concorde, la réconciliation des belligérants avait attisé les jalousies et les querelles dans le camp des vainqueurs. Tout cela avait débouché sur une tentative de coup de force, un renversement d'alliance et le désastreux siège de Mordune. À nouveau victorieux, mais perdu de réputation, Ganelon s'était retiré dans les îles maroises. Son exil n'y avait guère duré. Prématurément vieilli par les trahisons de ses fils et la mort brutale de son aîné, le duc Griffon s'était éteint au bout de 6 mois. Le pouvoir ducal était alors légitimement revenu au cadet. Mais les succès militaires de Ganelon avaient été assombris par le dénouement funeste du conflit. Pour asseoir une autorité fragile, il avait dû retisser des liens avec la haute noblesse de Bromel. Telle était la raison de son mariage précipité avec Dame Odierne, la fille de son cousin, le puissant comte de Brocmel, qui avait combattu du côté de Vertigier pendant la guerre du Hériban. Cette union n'avait pas duré 1 an. La duchesse Odierne avait été emportée par des fièvres peu de temps après avoir donné naissance à Lanval, son premier-né. Loin de rendre sa liberté à Ganelon, ce veuvage avait relancé les intrigues à la cour. Le comte de Brocmel veillait farouchement aux intérêts de son petit-fils, désormais héritier ducal. Pour ménager son cousin, Ganelon s'était gardé de reconnaître Domnal le petit bâtard. Et puis au bout de quelques mois, il avait été ensorcelé par la galanterie d'Odéarde de Maginois. Quoique la dame ne fût que de noblesse seconde, il en avait fait la nouvelle duchesse. Maîtresse-femme qui veillait à l'intérêt de ses fils, Odéarde avait obtenu que la jolie maîtresse de Longuemort fût reléguée au fond d'un cloître. Quant au petit bâtard, on l'avait écarté de sa famille maternelle de crainte qu'elle ne l'utilisât pour peser sur la politique ducale. L'éducation de l'enfant avait été abandonnée à Brasse-Grevel, un vulgaire sergent d'armes, illettré et paillard. Cette triste histoire, en définitive, confortait le seigneur du Trèfle dans ses principes. Plus que jamais, il lui paraissait néfaste que les personnes bien nées se mêlassent aux gens du commun. Du coin de l'œil, il étudiait le grand bâtard, et il en concluait que le fruit des amours de Longuemort n'avait reçu en partage de ses parents que les traits vicieux. De sa mère bourgeoise, il n'avait ni la beauté ni la politesse, mais le goût du marchandage et un arrivisme grossier. De son grand seigneur de père, il ne possédait ni la majesté ni le sens de la largesse, mais une dureté dépourvue de scrupules. 25 ans plus tard, estimait Rinfroi, le duché payait toujours le prix de cette erreur. Que représentait la ruine de la seigneurie d'Ouchain, les brigandages dans les hautes terres d'Agurande et jusqu'au pillage de Chanevier, sinon les conséquences de la faute de jeunesse du suzerain? Le voyant absorbé dans ses pensées, Fitz Ganelon apostropha soudain son compagnon de voyage. « À quoi rêvez-vous donc, Trèfle ?»«
Je songeais à une dame du temps jadis, » répondit Rinfroi avec un mince sourire.
Le grand bâtard partit d'un rire graveleux.
« Ah, les dames, les dames! À l'instant nous parlions de guerre et voici que cela vous ramène à de vieux cuissages. » Mais à quoi bon regretter les coups d'antan? Moi, je préfère penser aux dames d'aujourd'hui. »
Il se passa la langue sur les lèvres avec une lubricité qui fit horreur à son vis-à-vis.
Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et peut-être faudra-t-il que je m'assagisse,
soupira Fitz-Ganelon avec une feinte contrition.
Après tout, on ne peut rester éternellement garçon.
Sa prunelle et grillarde suffisaient à contredire la décence du propos. Il parut sur le point d'ajouter quelque chose, se contint. Son faciès rougeau se colorait d'une joie rentrée et équivoque. Rinfroi eut l'impression qu'une confidence le démangeait et craignit quelques vantardises de corps de garde. Il cherchait une manière de détourner la conversation quand le grand bâtard, rapprochant son cheval, ne put résister au plaisir de se livrer.
C'est encore un secret, mon cher Trèfle, mais les bans ne tarderont plus à être publiés. Et puis, ne sommes-nous pas voisins et bons amis? Vous avez été si civil avec moi, malgré vos réserves sur ma naissance et mes genres, que je vous dois bien la primeur de l'annonce. Son Altesse Ducale, mon père, songe sérieusement à me caser.
À moitié soulagé de ne pas avoir à subir une forfanterie grivoise, Rinfroi manifesta un intérêt poli.
Ne suis-je pas seigneur et capitaine? Poursuivait Fitz-Ganelon. Il est temps que je fasse souche. Mon père songe à une fille de bonne famille.
Ainsi mes enfants ne seront plus que des carterons de bâtards, et mes petits-enfants ne seront plus réputés que pour être du sang de Bromel. Ce mariage, mon bon voisin, me donnera plus de respectabilité que toutes les expéditions menées sous la bannière du Cal.
Je m'en réjouis pour vous,
salua le seigneur du Trèfle sans grande conviction. Vous êtes trop aimable. En temps et heure, je compte bien que vous serez de la noce.
Quelle flatteuse attention,
remercia Rainfroid du bout des lèvres. Pour éluder au plus vite cette embarrassante invitation, il s'empressa de demander,
si cela n'est pas indiscret, quel est donc l'heureux élu?
Je veux bien vous le dire, en gage d'amitié, mais n'allez pas le crier sur les toits. Pour l'instant, la dame elle-même ignore le bonheur qui l'attend.
L'accord a été conclu entre son père et sa tante d'un côté, le chancelier Diatchekrimen de l'autre, chargé d'arranger le coup par Monseigneur Mongéniteur. Il ne s'agit pas d'un des meilleurs partis du duché, mais enfin, c'est une fille dont j'aurai l'honneur de lustrer la vieille et bonne noblesse. Connaissez-vous le sire Ménard de Prangeret ?
Il me semble, oui. N'est-ce point l'un des vassaux du comte de Bellestance ?
Tout juste. Sa sœur, qui a fait un beau mariage et un veuvage non moins avantageux, est à présent la baronne de Brégor. Et du côté de sa mère, il est lié à la famille de Maginois. Eh bien, c'est Héloïse, la fille de ce prud'homme, que l'on me destine. Mon père et son chancelier y voient une manœuvre utile pour se rabibocher avec la noblesse de Bellestance, qui digère mal la répudiation de madame, ma marâtre seconde. Je crois que la baronne de Brégor y trouve aussi son intérêt, en rapprochant sa nièce du siège ducal, fût-ce par la main gauche. Quant à ma promise, il paraît que c'est l'une des roses de Belcastel et que les champions s'écharpent sur la lice pour ses beaux yeux. Je ne suis pas certain que son douair sera très fourni, mais qu'importe si le panier est joli. J'ai grande hâte de lui faire des enfants.
Quoiqu'il eût aussi un faible pour la famille, le seigneur du Trèfle n'eut pas le cœur de s'en ouvrir. En son fort intérieur, il plaignait la jeune Héloïse de Prangeret. Certes, c'était le lot des dames de haute naissance que d'accepter les parties auxquelles on les destinait pour perpétuer les lignages. Mais enfin, il était des devoirs plus pénibles que d'autres. Quitter les campagnes riantes de Bellestance afin de s'enterrer dans les hautes terres d'Agurande aurait tout d'un exil pour la pauvre âme. Pis encore, subir la loi d'un seigneur et maître comme Fitzganlon mettrait chaque jour son bon goût au supplice.
J'en conviens, il faudra que je fasse un effort, du moins au début, admettait spontanément le grand bâtard. Je me soucierai peut-être de décroter la cour d'Ouchain et de déplacer le gibet seigneurial. Si je mets la main sur des artisans, je pourrai refaire le cholage et la toiture du tinel. Et surtout, je garderai à l'œil ce vieux coquin de Brasque. C'est assez avec moi d'un bâtard dans mon foyer. Mais une fois que la Gironde Héloïse se sentira à la maison et qu'elle y sera attachée par deux ou trois lardons, à elle de tenir mon hôtel et à moi d'y prendre mes aises. Le mariage, c'est quand même bien commode.
À la longue, le seigneur du Trèfle ne suivit plus que d'une oreille distraite les bavardages du grand bâtard. Descendant la vallée de l'Andoune, la troupe avait enfin quitté son fief. Et après avoir longé les friches du finage de Ruselet, traversait à présent les prés et les champs bien ordonnés du convent de Todève. Il restait un long chemin avant de toucher à Carouel, et Rainfroid rassemblait son courage pour souffrir si fruste compagnie sur tant de lieux. Du moins, caressait-il l'espoir de franchir la porte du resplendissant avant la nuit? Le suzerain serait-il déjà arrivé dans la bonne ville? Rien n'était moins sûr. Mais d'autres vassaux avaient sans doute déjà répondu à la levée du banc. Il serait d'un commerce plus décent que le capitaine de Routier et sa bande. Le prud'homme s'inquiétait juste du passage sur la rive nord de l'Andoune, peu avant d'arriver en vue des faubourgs. Le seigneur de Canderas prélevait un péage sur le pont. Or Rainfroid concevait mal Fitzganlon et ses ouromans, payant leur écho de bonne grâce. Cependant, les barbares commencèrent à s'agiter beaucoup plus tôt dans l'après-midi. Des cris et des appels fusèrent dans la troupe. Quelques brutes sortirent du rang et coururent vers la rivière, bientôt suivis par d'autres sbires. Le seigneur du trèfle et ses gens ne comprenaient goutte à leur rugissement. Mais les vociférations et les rires sonnant féroces les induisirent en erreur. Tandis que ses bannerets et ses sergents portaient la main à l'épée, Rainfroi cherchait en vain l'origine de la menace. Plusieurs ourlements pataugeaient à présent en eau peu profonde, mais il n'y avait âme qui vive sur la berge opposée. De son côté, le grand bâtard échangea tranquillement quelques mots avec Sigurd le Déorcine, et puis ordonna l'arrêt de la colonne.
« Que se passe-t-il ? » demanda Rainfroi.
« Ils vont pêcher, » répondit Fitzganlon.
« Pardon ? Ils ont vu du poisson.
Ils en raffolent, surtout ceux du clan Voltsum qui vivent dans un pays de lacs et de rivières. » Effectivement, barbotant à mi-cuisse, plusieurs gaillards plongeaient les bras jusqu'à l'épaule. Bien qu'ils fussent de plus en plus nombreux à sauter dans l'Andoune, cela ne suffisait pas à provoquer le puissant remous qui brassait l'onde. Toute la rivière se mettait à bouillonner dans un improbable mascaret qui refluait vers l'amont. Des ondulations reptiliennes fendaient parfois ce flot fébrile. À côté de Fitzganlon et de Rainfroi, le museau farouche du Déorcine était éclairé par un sourire d'enfant.
« On a de la chance !» se réjouissait-il. « Chez vous, la montaison des anguilles y arrive plus tôt que chez nous. Au camp, on bricolera des fumoirs. »
Déjà, au milieu de grands jaillissements, quelques rustres brandissaient de longues prises vermiformes qui s'échappaient en se tortillant de leurs mains grasses de mucus.